RMC Grand Plateau, Christophe Cessieux.
Salut à tous, les vélos sont huilés et rangés, les organismes au repos ou en vacances. Après 10 mois de luttes intenses, de vives émotions et de déceptions poignantes, la saison cycliste 2023 a pris fin la semaine dernière en Chine. En attendant de connaître la dernière émotion de l'année cycliste avec la découverte du parcours du prochain Tour de France qui sera dévoilé ce mercredi à Paris, eh bien Grand Plateau dresse aujourd'hui le bilan de la saison, les bons points et les moins bons, les coups de cœur et les coups de griffe, les satisfactions et les déceptions. Pour cela, je compte aujourd'hui sur une équipe certes resserrée, mais qu'importe le nombre, pourvu qu'on ait la qualité. Et avec ce duo de choc, là, on va avoir de la qualité. Je compte évidemment sur Cyril Guimard. Bonjour Mondruid, comment ça va ?
Eh bien, ça va bien, ça va bien, ça va très bien. On va rentrer dans la partie hivernale, donc on va se reposer peut-être aussi d'ici quelques temps, enfin après le tour. La présentation.
Exactement. Il restera un dernier podcast. Ce sera la semaine prochaine, justement, pour analyser, disséquer le parcours du Tour de France. Et puis, également avec nous, la plume, la verve, les analyses critiques de Pierre Amiche. Salut, mon Pierrot.
Bonjour, Christophe. On va essayer de ne pas être trop critique quand même. Là, c'est un bilan, c'est la joie, c'est le sourire.
Ah, mais t'as le droit de porter la contradiction à Cyril. N'hésite pas. N'hésite pas. Il n'y a pas Arnaud Souk aujourd'hui, donc autrement, il va s'enduyer, mon Cyril.
T'inquiète pas, Cyril.
Il aime bien quand on lui rentre dedans. Il adore ça. Des émotions, des déceptions, des exploits insensés, mais aussi quelques défaillances. Cette année cycliste nous aura permis de vivre des sentiments contrastés.
Mathieu Van Der Poel qui rentre sur la Via Roma. Mathieu Van Der Poel va remporter la Classicissima, la classique des classiques. Mathieu Van Der Poel qui va pouvoir lever les bras. Le premier monument de la saison pour le Néerlandais. Sur ce vélodrome, André Pétrieux, les 500 derniers mètres pour Mathieu Van Der Poel qui va avoir dans sa roue Wout Van Aert. Il a 500 mètres de retard, Wout Van Aert. Mathieu Van Der Poel qui va remporter Paris-Roubaix. Vraiment la plus belle victoire sans doute de la carrière de Mathieu Van Der Poel. Monumental, monumental, monumental Mathieu. Quatrième monument pour le Néerlandais.
Victor l'a fait, ou Pogacar, ou Wout Van Aert. Victor l'a fait, la victoire française ici à Saint-Sébastien. Victor l'a fait qui s'impose. On l'attendait, la victoire française. Quel gros numéro de Victor l'a fait. Vainqueur, il allait le faire, il l'a fait.
Pogacar est-il en train de perdre le Tour de France?
On n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes. C'est un coup énorme aujourd'hui qu'est en train de réaliser Jonas Vingegaard.
Vingegaard est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter un deuxième Tour de France d'affilée.
Mais quel palmarès! Quel palmarès il s'est construit celui-là. Mathieu Van Der Poel qui serre le poing, qui est dans la dernière ligne droite et qui va pouvoir lever les bras, qui se met la main au niveau du cœur. Mathieu Van Der Poel, nouveau champion du monde de cyclisme sur route, la consécration du meilleur coureur de classique et de championnat de notre époque.
Voilà quelques émotions qu'il est toujours plaisant de réécouter. On se remet dedans. Alors, on a eu trois vainqueurs différents, mais issus de la même équipe sur les trois grands tours. On a eu un champion du monde, vainqueur de Paris-Roubaix et de Milan-San Remo. On a eu un Poggi, groggy sur le tour, mais énorme tout au long de la saison des classiques, qui a parachevé sa saison avec une victoire dans le Tour de Lombardie. Voilà, résumé rapidement ce qu'aura été cette année 2023 en matière de vélo, en tous les cas de grands résultats sur les grandes courses. Messieurs, avant d'entrer dans le détail, votre sentiment général, est-ce que 2023 restera comme un grand cru, une année dont on se souviendra bien plus tard? Je ne sais pas s'il y a eu d'autres grandes années dont vous vous souvenez, sans doute Cyril, avec évidemment l'expérience. Cyril, 2023, grand cru ou non?
Bon, pour moi, c'est un très très grand cru, avec des surprises et puis des exploits individuels ou collectifs absolument extraordinaires, ne serait-ce que le triplé sur le Tour d'Espagne, mais le triplé sur les grands tours de la même équipe, c'est absolument extraordinaire. Et ça restera parce que c'est écrit sur les palmarès. Et puis vous avez le triplé de Van Der Poel avec Milan-San Remo, Paris-Roubaix et le titre de champion du monde. Et encore Pogacar l'a privé peut-être du plus beau palmarès avec le Tour des Flandres. Et puis qu'est-ce qu'on peut retenir? Deux autres choses à retenir aussi. Alors ça va peut-être faire crier sur les réseaux sociaux, mais je m'en fiche. C'est l'annexion du Tour de Lombardie, par Marc Madiot et l'équipe Groupama FDJ. Et là, je crois qu'on peut les féliciter parce que c'est un coup de marketing absolument extraordinaire. Et c'est d'autant d'autant plus extraordinaire qu'on a même oublié qu'il avait gagné. Ça, c'est, il faut le dire, c'est une très belle victoire. C'est des choses que l'on peut faire aujourd'hui, qu'on n'aurait sûrement pas pu faire il y a une trentaine d'années. Et puis, malheureusement, on aura aussi eu, parce que ça fait partie de la saison, eh bien, tout simplement, le cyclisme aura été endeuillé par le départ de Gino Mader, qu'il ne faut pas oublier non plus. Voilà, vraiment, cette année, elle compte pour moi parmi les plus grandes années cyclistes.
Ouais. Effectivement, tu as raison de signaler aussi le décès de Gino Mader en course. Ça restera comme évidemment le point noir de cette saison cycliste. Pierre, est-ce que tu es d'accord avec Cyril? Grand cru, il nous a résumé les grands moments de cette saison. Est-ce que oui, non, t'as pas
non,
l'air...
Si, très belle saison. Peut-être pas grand cru, mais très belle saison. Le seul truc qui me fait dire que c'est pas un grand cru, c'est le comment l'exprimer sans passer pour un rabat-joie. J'ai le sentiment quand même que les grands tours ont, Giro mis à part, j'ai l'impression que le Tour de France s'est passé sur 2 semaines et que la troisième a été un peu escamotée par l'explosion de Tadej Pogacar et provoquée par Vingegaard et la Jumbo, hein, bravo à eux, mais j'aurais aimé avoir du suspense jusqu'au bout.
Ah mais on arrive tous,
et,
hein, mais bon.
Et puis la Vuelta était chiante à mourir, je trouvais, moi en tout cas personnellement, je me suis ennuyé, ce qui me fait dire que, oui bien sûr, et là-dessus Cyril a entièrement raison, l'histoire retiendra le nom des vainqueurs, et quand on regarde qui a remporté les grandes courses cette année, ça laisse rêveur, il y a peu d'outsiders, il n'y a aucune surprise, il n'y a personne qui vole ses victoires, même si on ne vole jamais un monument, mais voilà, quand on regarde qui a gagné, c'est que des grands noms, donc ça veut dire que la saison pour gagner fallait être très très fort, mais voilà, un minuscule bémol parce que je suis le rabat-joie de service, et puis on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une saison, parce que je suis un grand nostalgique, une saison qui a vu les adieux de beaucoup de coureurs qui ont marqué leur génération. Ouais. Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Tony Gallopin. Il n'y a pas que Thibaut Pinot qui a raccroché. Et voilà, je trouve que certains ont fait des adieux dans un anonymat un peu triste. Voilà.
Alors que d'autres l'ont fait
sans anonymat aucun.
Sans aucun anonymat, évidemment, avec ce que disait Cyril tout à l'heure, avec le départ de Thibaut Pinot qui a annexé la victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de Lombardie. S'il y a une seule image, un seul moment, le plus fort de cette année, on va peut-être commencer avec toi Pierre.
La chute et la victoire de Mathieu Van Der Poel sur les Mondiaux. Quand il tombe, qu'il se relève, qu'il repart, on pense qu'il va se faire reprendre. Lui n'a pas les écarts, il a cassé une fixation. Pff, exceptionnel. Gagner dans des conditions comme ça après une course aussi difficile, voilà, c'est tout ce que j'aime dans les courses. Et comme par hasard, une course sans oreillette. J'ai adoré cette image précise de la chute de Mathieu Van Der Poel. Pensait qu'il était, c'était certain qu'il allait gagner, et l'espace d'une seconde, on a cru que tout était foutu.
Et puis, incroyable. L'image de sa victoire aussi dans Milan-San Remo, il est échappé avec les trois cadors, il est en quatrième position, et puis paf, il leur fait le coup, et plus personne ne le revoit d'ici l'arrivée. Franchement, il a été énorme cette année. On élira tout à l'heure notre meilleur coureur de la saison. Cyril, l'image, la seule, le grand moment que retient la saison.
Alors, je vais peut-être changer de registre un tout petit peu, mais ce sont aussi les championnats du monde, mais ce sont les championnats du monde des moins de 23 ans, avec la victoire d'Axel Laurens qui a été acquise dans la souffrance, dans l'incertitude, et je peux vous dire, pour l'avoir regardé pendant toutes les heures de présence sur l'écran, les deux derniers tours ont été absolument extraordinaires, d'émotion. À aucun moment on pouvait dire que Axel pouvait aller à la victoire, d'autant qu'il était pris de crampes sur le final. Vraiment, on avait la chair de poule sur les 30 derniers kilomètres.
Ah, magnifique victoire, c'est vrai.
Très bien, voilà donc pour les images que vous retenez de cette saison. La course où vous avez pris le plus grand pied, tu te disais les championnats du monde, évidemment.
C'est pas ça, moi.
Non, c'est pas toi.
Non,
c'est pas ça.
Les championnats du monde, formidables, mais il y a deux courses que j'ai adorées. Le Tour des Flandres cette année, j'ai trouvé que la démonstration de Tadej, c'était de l'ordre du surnaturel. Vraiment, je n'ai pas d'explication rationnelle comment un coureur peut être aussi fort. Et à ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, on est peut-être en train de... J'ai pas eu la chance de voir courir Eddy Merckx de mon vivant. On est peut-être dans ce registre-là, quelqu'un de surnaturel, d'au-dessus de tous. Et l'autre course, mais c'est particulier parce que j'ai la chance de commenter la dernière étape du Giro. Et là, pareil, ça restera dans mon intime à moi, une course incroyable. Oui, bien sûr, la victoire, la défaite ou la victoire de Primoz Roglic au détriment de Geraint Thomas, ou la défaite de Geraint Thomas par rapport à Primoz Roglic, mais le dénouement après une course comme ça, qui a été marquée par des conditions météo horribles, qui a été plutôt une belle course sur la dernière semaine avec, on l'avait dit d'ailleurs dans ce podcast, la difficulté du Giro qui crée forcément de l'attente et deux semaines parfois un peu lénifiantes, mais la dernière était merveilleuse, ça a été un feu d'artifice, la dernière étape historique.
Alors moi, c'est pas la course où j'ai plus le plus grand pied, mais celle qui m'a le plus marqué et qui nous a tous marqué à l'antenne d'ailleurs ce jour-là, c'est le contre-la-montre du Tour de France.
Ah, bien sûr.
Où Jonas Vingegaard, Cyril, met une correction à Pogacar et évidemment au reste du peloton. Ce jour-là, il était sur un nuage, plus qu'un nuage. Évidemment, le soir, on était un peu tous déprimés parce que il nous cassait un peu notre jouet, il nous cassait le Tour de France.
Jouet, oui, tout à
mais
fait,
quelle,
tout à
quelle
fait.
Impression ce jour-là, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi.
Ah, si, tout à fait. Mais bon, on s'est rendu compte que Pogacar n'était pas non plus à son meilleur niveau. Donc le match n'a pas été équilibré, mais il a été régulier, bien sûr. Pogacar a démontré là qu'il était le plus fort. Vingegaard, qu'il était nettement le plus fort. Et sa victoire est tout à fait logique. Et les écarts dont on parlait tout à l'heure le sont également. C'est pas la... Il n'y a pas toujours eu que 8 secondes à l'arrivée d'un Tour de France, il y a eu des écarts de 6, 7, 8 minutes, voire plus. Mais là, c'était à une autre époque.
Mm-hmm. Alors toi, Cyril, t'as la course que tu retiens, celle qui t'a le plus marqué cette saison ?
Alors, il y en a beaucoup, il y en a tellement. On parlait du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix, ça a vraiment été des monuments. Moi, il y a quelques secondes sur une course qui ont été absolument extraordinaires. C'est l'arrivée du championnat d'Europe.
Ah, avec ouais, Christophe bien sûr, bien sûr.
Là, il y a un dernier kilomètre qui est absolument fabuleux et atroce en même temps. Fabuleux parce que Christophe arrive à chercher les ressources.
À 200 mètres, on n'y croit plus vraiment.
On y croit au pied. Et puis, Delis met en route. Et puis là, on se dit, bon, c'est fini, c'est Van Aert qui ? Eh ben non, Van Aert, c'était pas son année. Et en plus, par un de ses meilleurs équipiers. Non, ça a été... d'une intensité rare sur quelques secondes, et c'est ça qui est le piment du sport en règle générale. C'est vrai dans les autres disciplines aussi, où au moment où plus personne ne peut vendre quoi que ce soit, eh bien il se passe quelque chose d'extraordinaire, et il s'est passé là sur les 20 derniers mètres ce que personne ne pensait possible.
Il y a tellement d'images, on l'a entendu dans la production de Kevin Pogam, Victor Lafay qui gagne en mettant un caramel au meilleur coureur du monde. Et 24 heures après avoir rivalisé avec eux sur une montée sèche, bon là pareil, c'est des images qui resteront gravées peut-être pour l'éternité, pour ceux qui ont regardé ou écouté ce Tour de France à la radio. Et j'ai le sentiment que de toute façon, au terme d'une saison cycliste, il y a toujours des grands moments qui vont émerger aussi avec le temps. Par exemple, si Victor Lafay demain ne gagne plus de course, cette course-là servira de référence absolue, d'étalon maître pour juger sa carrière. À l'inverse, s'il est capable de faire de remporter une victoire sur une classique, et ben à ce moment-là, ce sera ça la mesure Victor Lafay. Donc il y a des choses
Victor
qui se révéleront avec le temps.
Il faut qu'il regagne d'autres courses, sinon
exactement.
On oubliera son exploit dans les Pyrénées.
Complètement. Oui. Bon, regarde Christophe Riblon, on n'a jamais oublié qu'il avait gagné sur le Tour.
Oui, parce qu'il a gagné à l'Alpe d'Huez.
Oui, mais
il a gagné à l'Alpe d'Huez en partant
mais il a
de
gagné
loin.
Qu'une course.
Oui, mais c'est l'Alpe d'Huez.
Non, il a gagné d'autres quand même.
À l'Alpe d'Huez. T'as non seulement la victoire, et en plus le lieu mythique. S'il y a une étape dans le Tour de France à gagner, pour n'importe quel coureur, c'est quand même celle-là, quand tu es grimpeur surtout.
Oui, et puis Riblon, comme l'a fait, par contre, c'était la seule victoire française du Tour. Ouais. Et donc ça fait aussi, ça crée du souvenir.
Ouais, bien sûr. Oh, on espérait bien ce jour-là, on était à deux ou trois jours de course seulement.
La quatrième étape, je crois.
Il y en a d'autres.
Ouais. Oui,
malheureusement, il n'y en a pas eu d'autres. Une saison marquée par la domination collective sans partage de la formation Jumbo-Visma. Vainqueur, donc, on le disait, des trois grands tours, mais pas que, Pierrot. De janvier à octobre, on a vu que du jaune et noir sur les courses World Tour.
Hein. Et ouais, 69 victoires, c'est un record pour l'équipe. Les trois grands tours, tu l'as dit, Tirreno, le Dauphiné. On notera aussi, et c'est quand même à souligner, 12 vainqueurs différents. Ils ont remporté de la première course de la saison avec le Tour de Nunder, enfin une étape en tout cas, jusqu'à la dernière avec le Tour de Guangxi. Il y a une progression sidérante quand même pour cette équipe de la Jumbo. En 2015, la structure était moribonde au bord du dépôt de bilan et gagnait 6 petites courses. l'année dernière. Déjà 48 succès, c'était énorme. Mais cette année, c'est 21 victoires de plus sur la saison. C'est plus que tous les succès de la FDJ. Hein. Le progrès entre l'année dernière et cette année, c'est plus que les succès de la FDJ. Le géant néerlandais qui a frappé fort aussi sur le marché des transferts, avec notamment deux futurs bons coureurs, Matthew Jorgensen et Ben Tullett, qui se sont engagés pour la saison prochaine. En revanche, on peut souligner aussi qu'en 2023, Wout van Aert n'a gagné que 5 petites courses contre 9 l'an dernier et 13 en 2021. Il y a un petit manque à gagner là. Qu'avec 69 succès.
Oui, mais alors il y a une inflation sur les places de 2. Hein.
Ah oui, bah ça c'est sûr. Mais bon, après, dans le bilan de la Jumbo, ça compte au classement pour le classement UCI, mais pas dans les victoires. Avec 69 succès, en tout cas, la Jumbo fait mieux que tout le monde. À titre de comparaison, Ineos, l'autre géant financier, n'a gagné que 36 courses. La Bahreïn, 18. Deux formations vont rivaliser, mais quand même de loin, UAE avec 57 victoires. Et la Quick-Step, 55 bouquets côté individuel. Eh bien, il n'y a pas de coureur de la Jumbo parmi ceux qui ont le plus gagné, puisque le vainqueur, c'est Jasper Philipsen, même si officiellement... C'est Miguel Angel Lopez qui a gagné 20 courses avec la team Medellin.
Ouais, on en reparlera. Pas.
C'est pas tout, pas tout à fait du même niveau, j'imagine.
Ah, mais une victoire, c'est une victoire. Moi, je suis comptable, tu sais. Genre, ouais, mais alors, 20, mais, c'est plus grand que 19.
Oui, enfin, t'es comptable quand ça t'arrange, quoi.
Exactement.
Ouais, ouais. Selon le classement des courses, tu en tiens pas compte, quoi. Toi, t'es une
Pourquoi
victoire, c'est-à-dire que Paris-Roubaix, c'est pareil que.
Ah, bah oui, une victoire, c'est une victoire. Après,
qu'une étape autour de Colombie.
Ouais. Exactement. Il en a gagné pas mal autour de Colombie. Ah bah, quel coureur, ce Miguel Angel.
Superman, t'es aussi bon que lui, tiens, Superman. L'équipe Jumbo, dont on a appris en fin de semaine dernière qu'elle serait bien au départ en 2024. Son dossier d'engagement a été déposé. La seule incertitude, c'est le nom du sponsor titre, mais a priori, ça devrait s'arranger. Est-ce que vous pensez cette équipe capable de faire aussi bien en 2024 qu'en 2023 ? Cyril, on rappelle qu'ils ont perdu Roglic, hein, qui est parti chez Bora. Roglic, quand même,
14 était, victoires.
Le vainqueur du Giro et 14 victoires personnelles. Est-ce qu'ils peuvent faire aussi bien, sinon mieux ?
Mieux sûrement pas, aussi bien ce sera difficile pour deux raisons. La première, c'est qu'il leur manque un coureur qu'on a quand même gagné 14, qui va partir chez Bora et qui risque de les priver de quelques victoires. Donc le différentiel peut être beaucoup plus important. Et puis moi, je suis jamais insensible, on va dire, à la vie sociale interne d'une équipe. Et je pense que toutes les tribulations depuis 3 mois sur « je me marie avec Pierre, non, finalement, je vais peut-être prendre une copine plutôt qu'un copain », ça perturbe les coureurs, ça perturbe l'état d'esprit au second degré, pas au premier. Tout le monde aura l'impression qu'elle vit bien, mais il y a quand même des traumatismes qui sont réels et qui pourront, à mon avis, perturber un peu le fonctionnement, le management de cette équipe. Et puis, je pense aussi qu'il y a un coureur qui ne se sent plus très à l'aise dans cette équipe. On l'a déjà évoqué, on l'a vu sur le Tour de France. C'est Wout van Aert qui est un petit peu à l'étroit compte tenu du nombre de leaders qu'il y a dans cette équipe, ou qu'il y avait, puisque un partira. Est-ce que le fait que Roglic ne soit plus là va le libérer un petit peu plus au niveau de ses capacités de liberté, ça n'est pas certain. Donc voilà trois éléments qui me font dire que on ne peut pas pronostiquer aujourd'hui une saison équivalente
en
2024 par rapport à 2023.
C'est pas la faute de Roglic, de Vingegaard des autres s'il a fait plus de places de deux que de places de vainqueur, notamment sur les classiques.
C'est aussi
sur les classiques, tout le monde était à son service.
Sur le Tour, il avait quand même pas beaucoup de monde
sur le Tour.
Oui, et puis c'est la faute de tout le monde et de personne. C'est une saison, donc Wout van Aert, certaines fois, il a sacrifié ses ambitions personnelles pour emmener Olaf Koch, qui est le sprinter aujourd'hui de cette formation.
Comme l'a fait Van Der Poel pour Philipsen, sauf que Van Der Poel est allé gagner d'autres grandes courses à côté.
Oui, parce
il s'est
que
transformé en équipier pendant le Tour, mais il était le leader sur les autres courses, et il a vraiment fait valoir son rôle de leader.
Oui, mais il y a aussi que Van Der Poel, il se met au service d'un bonhomme que quelques courses dans l'année, pour le Tour de France, pour 5 étapes grand maximum. Je pense que Wout van Aert, il y a au moins un tiers de sa saison où il est au service de quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Mais bon, pour répondre à ta question, est-ce qu'on a une chance de voir la Jumbo faire mieux ? Je vois pas comment ils pourraient faire mieux. Ils ont fait le triplé, 3 vainqueurs différents,
oui,
les 3 grands tours et triplé sur la Vuelta, à moins de remporter toutes les classiques et les 3 grands tours. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi de la gestion humaine, et Cyril a commencé à entre-ouvrir la porte, mais il y a aussi d'autres cas. Sepp Kuss, Est-ce que Sepkus aujourd'hui va prendre toute la place que Roglic va lui laisser? C'est pas certain. Et donc la nature déteste le vide. Mais est-ce que d'autres coureurs vont pouvoir s'imposer? Est-ce que Attila Valter va redevenir leader? Est-ce que Olaf Koch va se dire, attends, moi, ok, j'ai 20 ans, mais moi, je veux gagner des courses plus importantes, j'ai envie d'être sur les classiques. Est-ce que Christophe Laporte va accepter d'être le vassal de Wout van Aert sur les classiques éternellement? J'en suis pas convaincu non plus. D'autant qu'il l'a battu à la régulière sur les championnats d'Europe. Je pense que cette saison-là, c'est le point d'orgue de la génération Jumbo. Comment ils vont gérer et digérer les succès, c'est pas facile hein, quand même de manager des gars qui veulent tous gagner.
Ah, et puis faut résoudre le problème des sponsors déjà.
Oui voilà, est-ce qu'on peut payer tout le monde?
Oui, déjà, si tu as le budget, savoir si tu peux payer, évidemment, avec des salaires de ministres, tout c'est quoi. Cyril, toi, tu as connu ces périodes. Il y a eu dans les années, fin des années 70-80, l'équipe Renault, évidemment, dominait les débats. Est-ce que, justement, tu as senti à un moment donné que ça ne pouvait pas, que ça ne pourrait pas aller plus haut et que c'était forcément voué à une certaine, pas décrépitude, mais une certaine baisse de niveau, quoi.
Ouais, que ça allait imploser.
Oui, mais c'est vrai pour toutes les grandes équipes. C'est vrai pour tous les grands pays aussi. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai partout. Il y a toujours, et j'aime bien l'expression, un point d'orgue. Et puis une fois qu'on l'a passé, eh bien les choses vont aller au fil des ans de moins en moins bien. Le doute commence à s'installer, les rivalités internes commencent à se faire sentir de façon beaucoup plus importante. Et je sais que nous, ou du moins tant que nous avons eu, on va dire, les moyens financiers de pouvoir rester à notre niveau en étant à l'époque avec la régie Renault, par la suite, eh bien on s'est retrouvé avec des budgets beaucoup moins importants et puis avec des coureurs qui prenaient de la valeur, parce que quand vous prenez des jeunes, c'est souvent le risque aussi. Quand vous allez chercher Greg LeMond à 19 ans aux États-Unis et que après quand vous voyez son palmarès, et quand même 3 Tours de France, 2 titres de champion du monde, que vous avez Laurent Fignon qui quand il arrive vaut pas grand-chose, un an après il gagne le Tour de France. Donc il y a des budgets qui doivent augmenter. Si les partenaires ne sont pas d'accord pour augmenter les budgets, ben il y a un moment vous êtes obligé de laisser partir de bons coureurs, parce que c'est logique, parce que c'est normal. Et puis à partir du moment où Laurent Fignon avait gagné le Tour, Bernard Hinault et Laurent Fignon ne pouvaient pas rester dans la même équipe. Mmh. C'est pour ça que au niveau de Jumbo, il peut se passer d'autres choses aussi.
Oui, c'est le même genre de problème. Alors, 69 victoires pour la Jumbo, certes. Pourtant, Pierrot, la Jumbo ne termine pas en tête du classement des équipes 2023, dominée par l'UAE de Tadej Pogacar, qui doit beaucoup cette équipe, évidemment, à sa star pour s'en rendre numéro 1, puisque c'est lui qui a gagné le plus de courses cette saison. Enfin, le grand course, évidemment, Philippe Sen, je crois, en termes de victoires, est peut-être devant. Mais...
Oui, mais Tadej, c'est 17 succès. Alors oui, évidemment, c'est UAE qui va terminer premier de ce classement, mais ils ne doivent pas que leur victoire à Tadej Pogacar. Il faut rappeler quand même qu'ils le doivent aussi un petit peu à Juan Ayuso, Joao Almeida et Jay Vine, un peu plus à Juan Sebastian Molano, la grande surprise, et puis le retour d'un coureur qu'on ne croyait plus capable de gagner, Marc Hirschi, deuxième pourvoyeur de points de son équipe alors qu'il n'a disputé aucun grand tour cette année. En revanche, il y a aussi quelques déceptions qu'il faut souligner, Trentin, Ulissi et Majka pour les anciens qui se muent en capitaine de route, et puis un homme qui avait donné des satisfactions au moins au départ, Pascal Ackermann, et qui est en nette perte de vitesse depuis le Covid.
Voilà, c'est
oui,
étonnant.
Ceci dit, il y a moins de 300 points d'écart. Hein.
Ouais, mais, ça ne se joue à rien, bien sûr.
C'est quand même étonnant que
UAE réussisse à...
UAE soit devant au classement.
Mais parce qu'ils finissent quand même deuxième du Tour de France et troisième. Ils ont deux gars sur le podium, ça te fait beaucoup de points. Ils sont toujours là dans les classiques. Tadej Pogacar a remporté deux monuments. Sur les championnats du monde, il fait une médaille. Tout ça, à la fin de la saison, c'est quand même assez énorme. Et puis, je te l'ai dit, Juan Sebastian Molano et Marc Hirschi, à eux deux, c'est quasiment 30 victoires. Donc c'est assez énorme en fait.
Mmh. Ouais. Oui, mais il faut se méfier quand on regarde le nombre de points qu'il y a par victoire. Je crois que le responsable qui permet à UAE d'être en tête, c'est
Pogacar.
C'est Van Aert. Parce qu'il n'a rien gagné.
Ah oui, voilà, c'est ça, c'est encore. Oui, d'accord, j'étais là, je me dis.
Parce que si vous prenez Pogacar, il fait l'Amstel, il fait les Flandres, il fait la Flèche Wallonne, il fait la Lombardie. C'est 400 points à chaque fois. Hein. Ouais. Ou 300, je ne sais plus exactement.
Ouais, ça dépend. Ouais.
Et Van Aert, il ne va pas les chercher, quoi.
Il a baissé évidemment.
Il a trois victoires. L'écart, il est là parce que 300 points, c'est une victoire dans une classique, quoi.
Alors, Poggi battu sur le tour, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais omniprésent du début à la fin de la saison, mis à part ces quelques semaines au printemps après sa blessure sur Liège-Bastogne-Liège. Pogacar, numéro un mondial au classement UCI, il est pour vous et malgré sa défaite sur le tour, le coureur de l'année? Ou alors ça va jouer avec Van Der Poel. On rappelle qu'il y aura le vélo d'or qui sera attribué cette semaine. Un petit pronostic. Alors, Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard, qui sera pour vous le vélo d'or et qui est pour vous le plateau d'or, on va l'appeler comme ça.
Je me mouille. Évidemment, la saison de Tadej Pogacar est admirable. Il fait deuxième d'un tour en étant énorme sur 15 jours. Il remporte des monuments très forts, impressionnants, machin. Mais j'ai une tendresse particulière pour la saison de Mathieu Van Der Poel. Je trouve que ce qu'il a fait en gagnant deux monuments et un maillot arc-en-ciel, en se mettant au service d'un sprinter génial, le tout sans rater grand-chose et en décrochant aussi un titre mondial sur le cyclo, je trouve ça sidérant. Quoi,
double voilà. Champion du monde, tu as raison.
Ouais, je trouve ça, bravo monsieur, tout simplement. Avec les qualités qu'il a, je vois pas comment il peut faire mieux. Si, gagner trois monuments la même saison, mais... C'est déjà monstrueux.
Il n'est pas passé loin.
Ouais, bien sûr.
Ah oui,
bien
quand sûr. On tourne des Flandres, s'il n'y a pas Poggi.
Il tourne des Flandres et il tombe sur un super Pogacar. Moi, je vais vous dire, on devrait les mettre ex aequo.
Ah oui, mais ça ne va pas le faire, Cyril.
Mais si, on peut faire.
Attends, toi, tu n'arrêtes pas de nous dire qu'il n'y a qu'un seul chef dans un.
Ah ouais, non,
il faut qu'un seul chef,
Et puis là, on n'est pas dans une structure professionnelle.
Non, mais pour une fois,
il fait une histoire de récompense.
Qu'est-ce que vous avez fait de Cyril Guimard et rendez-nous le druide, s'il vous plaît. Parce que là, le druide romantique, je ne connais pas. Normalement, c'est le froid, le pragmatisme breton.
Il va nous dire qu'il adore le panache dans 5 minutes.
C'est sûr.
Franchement,
il y a beaucoup de panache. Et puis, il y en a un, on l'a juste évoqué très rapidement, mais qui fait une saison monstrueuse, c'est Primoz Roglic aussi. Il gagne le Giro, il fait podium sur la Vuelta, il claque 14 victoires cette année. Et surtout, je suis encore bluffé par le garçon. C'est-à-dire que chaque fois qu'il prend un coup sur la carafe, hop, il se relève, il repart et il gagne. Il a une force mentale assez admirable. Alors évidemment, il n'est pas invité dans la catégorie des méga cracks, mais quand on se retournera sur sa carrière, il a déjà 80 victoires, il a gagné 4 grands tours. C'est un monsieur quand même.
C'est le cœur qui parle, c'est la...
Non,
Donc, alors, ton podium du plateau d'or. Plateau d'or, plateau d'argent, plateau de bronze, donc Van Der Poel,
Pogacar, et faut être objectif, ce sera Vingegaard, mais je trouve qu'il faut quand même souligner la saison exceptionnelle de Primoz Roglic, voilà.
D'accord, mais tu mets qui sur la troisième marche?
Je mets Vingegaard.
Sur la tienne?
La Vingegaard.
Sur ta marche à toi?
Vingegaard.
Ah ouais, quand même, donc tu fais des grandes théories, mais en fait...
Je te dis simplement qu'il faut quand même pas oublier que Roglic a fait une grande saison, et d'accord. Je trouve ça bien de le souligner.
Donc tu le mets médaille en chocolat, quoi, plateau en chocolat.
Non, je le mets super combatif. Je le mets super combatif.
D'accord. Cyril, ton podium des plateaux.
Je mettrai Pogacar, Van Der Poel et Vingegaard. N'oublions pas que Vingegaard n'a perdu que...
Tour, hein.
Je crois qu'il a perdu que Paris-Nice,
c'est peut-être
une autre course, c'est tout.
Paris-Nice, c'est la Vuelta, c'est tout.
Et la Vuelta, mais alors la Vuelta, il l'a quand même gagnée comme Vingegaard. Ils l'ont gagnée à 3.
Oui, Roglic, Vingegaard, Kuss.
Parce que
s'il veut la gagner, peut-être
Vingegaard a perdu la Vuelta.
Il fait demain quand même.
Oui, enfin, si on reprend étape par étape, il y a un moment où l'ordre a été donné quand même.
Donc Pogacar pour Cyril. Van Der Poel pour Pierre, et moi je vais mettre Van Der Poel aussi.
Ah.
Parce que je pense que
un peu français.
Malgré
ses
15...
Mais n'oubliez pas que Pogacar a chuté à Liège-Bastogne-Liège. Parce que à cette époque-là, il voltigeait au-dessus de tout le monde.
Je sais Cyril, mais pour moi, je pense que les gens qui vont être appelés à voter, donc nous trois, n'oublieront pas que Poggi a été battu dans ce Tour de France, ce jour-là justement dans ce contre-la-montre et le lendemain, il a pris un éclat terrible ce jour-là. Alors évidemment, on a tenté d'expliquer pourquoi c'était arrivé, sans doute un peu éparpillé du début à la fin de la saison. C'est un coureur extraordinaire. Moi, je l'adore. Poggi, mais j'ai une tendresse particulière aussi pour Van Der Poel. Et le fait que ce garçon
Van Der Poel aurait mérité d'être premier s'il avait gagné au moins une ou deux étapes sur le tour.
Ouais, mais alors il s'est transformé en passeur décisif aussi sur les routes du Tour de France. Rappelle-toi, parce que Philippe Sain lui doit
quand
même.
Passeur décisif dans le vélo, c'est
ça
bien.
Ça n'existe pas.
C'est pas une victoire. Si, ça existe, puisque
on
n'est pas dans un sport d'équipe. Rappelez-vous, on est dans un sport de commando. C'est que c'est le dernier qui portait la mine avant de la donner à son collègue.
Le vélo change, Cyril.
Rien ne change.
Il y en a un dont on n'a pas.
Il y a toujours deux pédales, un guidon, et deux roues.
Il y a un GPS,
c'est toujours aussi. De la voile.
Et des capteurs de puissance. Non, il y a quand même un coureur dont on n'a même pas évoqué le nom, c'est Remco Evenepoel. Oui, il gagne un monument. Il est champion du monde du chrono. Et il n'est même pas dans la discussion.
Oui.
C'est
quand même assez fou. Il est deuxième au classement UCI de la saison. Alors justement, parlons-en de Remco, tu le disais. Vainqueur du contre-la-montre, donc chrono.
Mondial. Oui, parce que le contre-la-montre chrono, c'est pareil.
Contre-la-montre
mondial.
Championnat du monde, pardon. Oui. Mais battu, enfin, victime du Covid sur le Giro, et battu à la régulière. Sur la Vuelta, même s'il a réussi des coups d'éclat le lendemain, vous diriez que sa saison est une réussite comme celle de la saison d'avant, ou alors il est en régression?
Non, bien sûr. Dans la question que tu poses, il y a la réponse. Ouais. Puisqu'on vient de parler de trois autres. On vient de parler de quatre autres coureurs qui avaient tout gagné, y compris en incluant Roglic.
C'est pour autant pas un échec, c'est pas une saison ratée.
C'est pas une saison ratée, les circonstances ont fait que le Tour d'Italie, le Tour d'Italie, il passe à côté malheureusement. Le Tour d'Espagne.
Le Tour d'Italie, il quitte le Giro avec le maillot rose. Ouais. Enfin, il était leader quand même, tu vois,
Tout à fait, mais on retient quand même celui qui a gagné.
C'est pas une défaillance, Christophe. Oui, non, mais d'accord, n'importe quoi.
Après, sur le Tour d'Espagne, il a une étape où il explose, donc il est en retrait par rapport à Pogacar, par rapport à Vingegaard et par rapport à Roglic. Donc, c'est pas une saison ratée, c'est pas non plus une saison exceptionnelle.
Mmh. Totalement sur la même ligne que Cyril, c'est pas raté, c'est pas réussi, mais ça reste une bonne saison. Il inscrit son nom sur un monument, un de plus, et puis il repart avec un maillot distinctif, un de plus. C'est quand même.
Mais vu les qualités du bonhomme, on attendait plus, surtout qu'il est. J'attendais plus.
Oui.
Il a pris la maturité.
Il explose sur la. Après, il fait des grands numéros, mais il est plus dans le classement général. Mais moi, je pense que, je reviens souvent sur certains types de problèmes. Je pense que à partir du Giro, il a été perturbé par tous les problèmes de son équipe avec son papa, avec Patrick Lefebvre, avec on fusionne pas, je pars chez Ineos, finalement je vais peut-être me retrouver avec la Wisma sans la Jumbo. Vous savez, pour être au top niveau, faut pas de soucis dans sa tête, même avec son chien. Parce que si son chien, faut l'emmener chez le vétérinaire, ça perturbe. Donc il faut être totalement bien dans sa peau, il faut être relâché, il faut être concentré sur les objectifs, sans se mettre de pression négative. Là, à mon avis, il devait avoir 10 coups de téléphone par jour pour savoir ce qu'il allait faire le lendemain, un mois plus tard ou six mois plus tard. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus serein. Qui vous dit que certaines contrariétés ne sont pas arrivées sur le Tour d'Espagne qui l'ont fait exploser, indépendamment des gamelles, parce qu'il y avait tout, quoi. Mais on tombe pas non plus par hasard, je l'ai toujours dit. Une fois de temps en temps, mais pas tous les trois jours. Donc moi, je pense que sa deuxième moitié de saison a quand même été vachement perturbée par tous ces problèmes financiers et politiques.
Et puis, si Remco a raté sa saison, qu'est-ce qu'on dit de la saison des autres qui n'ont pas gagné du tout? Je pense à Julien Alaphilippe, je pense à Vlasov, ils sont des dizaines, il y a beaucoup plus de coureurs battus que de coureurs vainqueurs. Je te trouve difficile en affaire là, parce que Remco,
on le met pas dans le même saut que les Vlasov et tout ça. Pierrot, Remco, c'est l'équivalent de Poggi, de Vingegaard, de Van der Poel.
Mais pas sur les grands tours.
C'est un grand crack.
Oui, sur les courses d'un jour, mais pas sur les grands tours.
Ah oui, mais on a,
sur les grands tours aujourd'hui, il est pas à ce niveau-là. Il le sera peut-être, mais il est pas à ce niveau-là.
Après sa victoire dans la Vuelta l'année dernière, on pensait qu'il gagnerait au moins un grand tour cette année. Alors il n'a pas eu de bol sur le Giro évidemment.
Mais parce qu'on
a été battu sur la Vuelta, perturbé peut-être. Il n'a pas fait le Tour de France pour vraiment être dans la cour des très très grands. Là, je te parle pas des demi-selles.
Légendes. Toi, tu me parles des légendes.
Oui. Remco, rappelle-toi, a les qualités pour être une légende.
Tu ne juges que les résultats, c'est qu'ils soient positifs ou négatifs. Son succès sur la Vuelta, il le doit vraiment à un concours de circonstances assez exceptionnel parce que Roglic aurait dû gagner et il s'en sort avec beaucoup de réussite. Tant mieux pour lui, il gagne un grand tour formidable. Mais c'est une victoire en trompe-l'œil parce que c'était pas là où il était le plus fort. Et à l'inverse, c'est des courses qu'il a
Que Remco, vu son âge, vu son talent, vu sa puissance, ferait mieux cette année. Je pense qu'il fera mieux la saison prochaine.
Je n'en suis pas certain. Il faudra que les problèmes soient résolus.
Ouais, pour l'instant, on en sait.
Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut que son équipe reparte en ayant fait en sorte que plus aucun problème d'ordre financier ou politique ou humain, rappelez-vous depuis 2 ans, ça a quand même commencé depuis 2 ans avec les problèmes avec Julien Alaphilippe, où Patrick Lefebvre a commencé à dire tu fais pas le tour, et à juste titre d'ailleurs, mais ça a commencé... C'est là où les premières mauvaises graines ont été semées. Et puis toutes les déclarations de droite et de gauche, ça ne fait pas fonctionner un champion. Mmh. Ah. Donc l'année prochaine,
trop tôt.
Point d'interrogation.
Ouais, il est un peu tôt pour dire quelle sera la saison. Ça, déjà, il faudrait qu'on connaisse le parcours du Tour de France.
La semaine prochaine.
S'il va y aller. A priori,
Normalement, il devrait y aller. Quel que soit le parcours.
Il y aura a priori 2 chronos sur le Tour.
C'est ce qui est prévu. Peut-être même un chrono par équipe. C'est ce qui se murmure. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, que ce soit 1 ou 2 chronos, il aura lutté avec des cadors absolus. Que ce soit Roglic, Vingegaard ou Pogacar. Peut-être qu'on aura le gang des 4 alignés sur le Tour, ce qui serait formidable, surtout pour nous. Hein. Ce serait une jolie histoire à raconter, parce que peut-être qu'au bout d'une semaine, le Tour sera plié quand même. Et puis il faut quand même être objectif. Et puis, de toute façon, le programme de Remco, il est programmé pour faire le Tour de France 2024 depuis maintenant 2 ans. Patrick Lefebvre le répète à l'envi. Reste à savoir s'il sera encore, et c'est une possibilité, s'il sera encore titulaire d'une licence au sein de son équipe. Parce qu'il peut encore partir, Remco. Il coûte cher et il y a des équipes qui ont des sous et qui ont envie d'avoir un grand champion.
Ah oui, le marché des transferts n'est pas encore clos. On peut encore changer d'équipe, Cyril, même si on le sait, ça se fait souvent un peu plus tôt dans la saison. Mais il y a des exceptions pour des coureurs comme ça.
Non, le problème de transfert, on va dire en cours de saison, si vous... considère que les transferts sont arrêtés et encore ils ne le sont jamais, c'est lié en fonction de ce qu'il y a d'écrit dans les contrats entre le coureur et son entité juridique qui gère l'équipe.
Très bien, on parlera évidemment du Tour de France la semaine prochaine quand on aura le parcours sous les yeux. Ce sera donc mercredi en fin de matinée au Palais des Congrès de Paris. Parmi les grandes satisfactions de la saison, il y a eu beaucoup de Belges. Sylvain Hart a été un peu un ton en dessous. En revanche, Philipsen a confirmé son rang de sprinter numéro 1. Mais des succès glanés exclusivement sur les courses par étapes. Il n'y a pas eu de grandes victoires.
Ah oui, deuxième de Paris-Roubaix derrière son équipier, c'est pas mal quand même.
Et 7 courses d'un jour.
Oui.
Et 7 victoires sur les courses d'un jour. Alors que, bon, c'est quand même pas trop mauvais.
Non, mais je dis pas que c'est mauvais. Je dis que.
Tu commences par dire, il a gagné exclusivement sur les courses par étapes, on attendait plus de lui. Bon, c'est quand même.
Non, je me dis qu'avec la vitesse, la pointe de vitesse de ce garçon.
Il est fatigué, Christophe. Hein.
Il peut ambitionner. Bon, évidemment, il a Van Der Poel dans son équipe, donc sur Paris-Roubaix, ça va être compliqué, mais il a les moyens quand même d'aller chercher des victoires sur les grandes classiques.
Ah, bien sûr, en plus, il a été assez clair. Lui, il a des objectifs qui sont fixés. Déjà, il veut décrocher plus de maillots verts. C'est ce qu'il a dit. Son grand objectif, c'est d'enchaîner les maillots verts. Et puis, il y a un passage qui le ferait rentrer dans un club fermé, celui des seigneurs du vélo, celui qui ont gagné une étape sur les 3 grands tours. Pour ça, il lui faut qu'une victoire sur le Giro. Peut-être que ça va commencer à lui trotter dans la tête. Et puis après, je te l'ai dit, hein, et Cyril l'a souligné aussi, il fait 2 de Roubaix en étant très bon sur toute la course et sans jamais tenter de contrer Van Der Poel. Il a gagné 7 courses d'un jour. Il est capable de briller sur ce genre de profil-là. Et puis, c'est un dur au mal. Il me fait penser un peu à Mats Pedersen en plus rapide. Il est capable de briller les jours où il fait pas beau, les jours où il pleut, les jours où c'est dur, les jours où c'est long. Je vois pas trop comment il pourrait être en dessous des 15 victoires pour l'année prochaine. Ça me paraît assez facile pour lui de gagner.
C'est un garçon qui pourrait s'imposer sur Milan San Remo ou non, ou trop limité
Ah non, oui, bien sûr.
Il passe bien les bosses. Bah c'est, ouais. C'est aussi une des qualités qui lui permet d'avoir 19 victoires cette année. Hein.
Bien sûr, et ça va juste dépendre toujours la même chose sur Milan San Remo, c'est à quelle vitesse on passe le podio. Si on passe le podio à fond de train après avoir roulé 15 bornes à bloc, les sprinters, ils ont sauté.
C'est un peu souvent le cas ces derniers temps. Quand même.
Ces derniers temps, oui, un peu. Mais bon, il y a quand même des sprinters purs et durs qui ont gagné Milan San Remo, ça prouve que c'est possible. C'est possible pour lui de l'espérer.
Alors, on ne va pas avoir le temps de débriefer l'ensemble de la saison des coureurs français, mais on va quand même revenir sur un coureur français qui s'est illustré cette saison. Il est premier français, mais seulement 20e au classement mondial. C'est Christophe Laporte, dont on a déjà parlé tout à l'heure, notamment pour sa victoire dans le championnat d'Europe. Plusieurs autres succès de référence pour Laporte cette saison, Pierrot. Il fait sa meilleure saison.
Hein. Bah oui, 5 succès déjà. Gent-Wevelgem, on en a déjà beaucoup parlé. Le critérium du Dauphiné avec deux succès. C'était une première pour un Français depuis des années. Et puis la victoire qui va faire taire les mauvais esprits comme Christophe, c'était son titre européen et son maillot distinctif champion d'Europe, s'il vous plaît. Le tout en étant équipier de luxe d'un certain Wout Van Aert et d'un autre Olaf Koch. Les deux qu'il a battu justement sur le championnat d'Europe. Je dis les mauvaises langues parce qu'on répète sans cesse qu'on lui a offert une victoire sur le Grand Vevel Game.
Là, il est allé se rechercher tout seul.
Ce serait faire injure à Christophe Laporte et à sa saison de ne retenir que ça.
Cyril, Laporte numéro un français, il y a pas de doute là-dessus. C'est le seul qu'on a vraiment vu, mis à part Thibaut Pinot, qui termine d'ailleurs deux rangs derrière Christophe Laporte au classement mondial cette saison.
Mais surtout suite à son excellent Tour d'Italie.
Exactement, sa cinquième place sur le Giro. Laporte number one, sans souci.
Ah non, sans aucune hésitation.
Y a pas grand monde, c'est ça le problème.
Oui, puisque Julien Alaphilippe est en demi-teinte depuis deux ans et qu'il a du mal à revenir, même sur la fin de saison où il était courageux, où il se battait, comme il sait le faire. Mais les jambes n'y étaient pas. Et si les jambes n'y sont pas, ça veut dire aussi que la tête n'y est pas non plus.
Alors tu parlais tout à l'heure de Evenepoel perturbé par ses histoires.
Lui aussi.
Je pense que Julien encore un peu plus. Parce qu'en plus, il s'est pris des taquets réguliers par tonton Pat. Hein.
Ouais, après, Cyril est gentil. Il dit en demi-teinte, il est plutôt en sépia là en ce moment, Julien Alaphilippe. Ça fait deux ans qu'il pèse très peu sur les grandes courses. Alors évidemment, il est entouré d'extraterrestres. C'est difficile d'exister, mais on a l'impression que ses titres de champion du monde, c'était il y a 15 ans, alors que finalement, c'était pas si vieux que ça. Ouais. Mais aujourd'hui, Julien Alaphilippe, au classement, on en reparlera, mais il est 95e mondial. C'est indigne de son talent.
De son talent, oui, tout à fait.
Vous le pensez capable de revenir au sommet, peut-être pas avec les immenses cadors, mais capable d'aller remporter une étape sur le Tour, de s'imposer peut-être sur une classique ou une semi-classique, un championnat de France.
Il faudra qu'il retrouve, que l'ensemble de l'équipe retrouve cette dynamique qu'elle avait depuis 7-8 ans. Si elle ne retrouve pas cette dynamique, Julien ne retrouvera pas son meilleur niveau.
Non, moi,
parce qu'il a besoin du groupe.
Moi, j'y crois peu. Parce que je pense que Julien n'est pas forcément capable de retrouver le niveau qu'était le sien il y a 4 ou 5 ans. Parce que les années passent et qu'il n'y a pas que la confiance, il y a aussi les jambes. Et puis l'autre truc, c'est que devant, il y a du monde. Et que derrière, il y en a encore plus. Hein. Tous les jeunes qui poussent, les Juan Ayuso et compagnie, il va falloir aller les battre. Et ce n'est pas évident. Surtout qu'avec les qualités de Julien Alaphilippe, puncher, dynamique comme il est, ils sont de plus en plus nombreux sur la filière. Donc j'ai des doutes sur ses capacités à gagner des grandes courses. À gagner, non. Parce que ça, il en sera toujours capable. Il a une science de la course et une volonté. Mais les grandes courses, j'ai des doutes. Voilà.
Alors Alaphilippe, en deçà de ses objectifs évidemment, Laporte dans la continuité, et puis celui dont on a le plus parlé finalement en 2023, et Cyril en faisait référence en tout début de podcast, c'est évidemment la saison de Thibaut Pinot, qui a rien gagné, mais qui a gagné les cœurs, avec deux victoires dans le cœur, cette étape au Markstein, évidemment, cette haie d'honneur. Tiens, on va écouter un peu ce que ça donnait, c'était, rappelez-vous, l'avant-dernière étape du Tour de France.
C'est bon, il est pas gêné.
C'est le héros du jour, il arrive, Thibaut Pinot qui passe à 2 km du sommet, et là encore une fois, énormément de monde, c'est la foule des grands jours, ce n'est pas l'Alpe d'Huez, c'est l'Alpe Pinot aujourd'hui en direction du Markstein. Merci Thibaut, il y a des pancartes un peu partout. Thibaut, t'es beau, Thibaut, t'es magnifique aujourd'hui, il est extraordinaire ce Thibaut Pinot.
Il est grand, il est très grand Thibaut Pinot aujourd'hui, il va peut-être aller réussir un exploit incroyable. Là c'est l'Alpe d'Huez cette fois, le petit ballon s'est transformé en Alpe d'Huez, ils sont tous là, ses supporters, les supporters de Thibaut Pinot pour la dernière grande journée du champion français qui est en train de dessiner l'histoire une nouvelle fois, une dernière fois. Il y a du monde partout pour l'encourager.
Voilà, ça met les poils encore de réécouter ça, ce moment incroyable, intense que nous avons vécu sur le Tour de France. Il y a eu un bis repetita dans le Tour de Lombardie, même si l'émotion était différente. D'abord parce qu'il n'était pas en tête de la course.
Oui,
lorsqu'il est arrivé dans le virage Pinot, c'était plus un jubilé qu'autre chose. Mais voilà, ça a été quand même...
Oui, puis il était chez lui, dans sa région, ses routes.
Sur le Tour de France.
Il y avait tout un contexte qui fait que ce qui s'est passé sur cette étape était super, super sympa, oui.
Voilà, c'est le coureur français de l'année pour vous ?
Non.
Pas en termes de résultats, mais en termes d'émotion.
À l'applaudimètre, allez, on le met premier à l'applaudimètre.
Oui.
Non ?
Mais non, mais en fait, ça me peine un peu qu'on retienne la fin de Thibaut plutôt que tout ce qu'il a fait avant.
Ah non, mais c'était là, on parle
mais c'est juste
de son
palmarès. Cette saison, c'est une bonne saison pour Thibaut Pinot, mais ça m'a pas laissé un goût de reviens-y. Je me suis pas dit, putain, il aurait dû faire une saison de plus. Et j'aurais aimé avoir cette frustration-là de me dire qu'il est parti au sommet, que... et en fait, il aurait dû s'arrêter après le Markstein, ça aurait été une fin parfaite, idéale. Là, je suis un peu déçu d'avoir poussé l'histoire et d'avoir voulu recréer ce moment-là. J'ai eu une discussion très intéressante avec des supporters qui étaient en Italie et qui m'ont dit pas du tout, Pierre, c'était pas pour être vu là-bas, c'est parce qu'on voulait partager ce moment d'émotion et on a kiffé, c'était super sympa et tout. Et ça, j'en doute pas du tout. Mais vu que moi, je suis extérieur, j'étais pas dans ce virage, ni dans le Markstein d'ailleurs, mais... j'ai l'impression qu'on a tiré à la ligne pour faire de l'émotion et pour vendre un peu. Et ça me dérange un tout petit peu. Voilà, je trouve que ça aurait été merveilleux de s'arrêter après le Tour de France, la course de tous les espoirs, et qu'il ne poursuive pas après son amour d'été. Voilà, ça aurait été très beau.
Très bien, et c'est un amoureux de Thibaut Pinot qui vous parle, évidemment, qui va être un peu
orphelin,
triste, orphelin la saison prochaine.
Tu veux que je te donne les gars qui sont censés lui succéder dans les victoires françaises ?
Ouais.
Mais regarde cette année, Romain Grégoire, 5 victoires, un petit jeune. Mais derrière, bon, c'est pas terrible. Rémi Cavagna, 5 victoires. Christophe Laporte, on l'a dit, 5 victoires. Arnaud Démare, qui a regagné,
oui,
4 succès cette année.
En fin de saison, notamment.
Geoffrey Soupe, vainqueur surprise sur la Vuelta. D'un sprint massif. Et derrière, en décembre, Brian Cocard, 3 victoires. Kevin Vauclin, qui a gagné en début de saison, mais plus en fin de saison. Et derrière, on tombe à Jason Tesson de Total Energy avec 3 victoires et Axel Laurence avec 3 victoires. Tout ça pour dire que les Français qui doivent succéder à Thibaut Pinot, ils sont peut-être pas encore dans le peloton.
Eh bien, nous verrons ça la saison prochaine, 2024, pour savoir si nos Français sont capables de réaliser de meilleures saisons. Il y a tous ces petits jeunes, les Grégoire, les Martinez, qu'on a vu notamment dans la première semaine de la Vuelta et qu'on espère voir à nouveau, peut-être sur l'ensemble d'un grand tour, en performant en tout cas. Eh bien, les réponses, donc, à partir du 16 janvier prochain pour le début de la saison.
J'ai un petit sprinter breton.
Bah
bien sûr.
Ah bon, Cyril... on fait encore du vélo en Bretagne ?
Je crois, ouais. Cyril, ça te parle, Paul, quelque chose qui va très vite au sprint ?
Oui, il est né sur quelle île ?
Ah, je sais plus.
Ah bon ? Penouette, c'est ça ?
Voilà, exactement. Ouais, il va falloir le suivre parce qu'il ne fait pas encore beaucoup parler de lui, un peu moins que Romain Grégoire et Lenny Martinez, mais beaucoup, beaucoup de talent pour ce jeune sprinter.
Très bien, merci messieurs. On se retrouve pour la dernière de la saison la semaine prochaine. On va pouvoir disséquer, analyser, se régaler à l'avance des routes du Tour de France, puisque le parcours sera donc dévoilé mercredi. Et ce sera la dernière de la saison avec Arnaud Souk qui reviendra et avec Cyril et Pierre évidemment. Bonne semaine à tous. Merci mon druide. À lundi prochain.
À bientôt.
Allez, ciao.